avec la femme samaritaine, une pédagogie du déplacement. Avec l'aveugle-né, un souci de la responsabilité. Avec l'apôtre Pierre, après la résurrection, une stratégie du dévoilement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais deux remarques qui valent pour les trois rencontres et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Premièrement, comme avec les miracles, Jésus ne déploie pas de méthode unique en matière de dialogue. Il n'a pas de recette. Il s'adapte à des situations diverses et prend en compte la singularité de chacun de ses interlocuteurs. Par contre, on retrouvera toujours des constantes. Le respect de celui avec qui il parle, la patience et l'amour. Deuxième remarque, parce que Jésus est le bon berger et que son rôle est unique dans le salut, tout n'est pas imitable dans son art du dialogue. Nous essaierons donc de distinguer ce dont nous pouvons nous inspirer et ce qu'il nous faut laisser de côté dans notre apprentissage en matière de dialogue, d'accompagnement. Je vous invite à suivre la lecture d'une partie substantielle du texte de Jean 4 à partir du verset 7 sur la femme samaritaine. Une femme samaritaine, dit l'Écriture, vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine ? Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. » D'où tires-tu donc cette eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu dis là est vrai. Maître, répondit la femme, je vois que tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Nous arrêtons là notre lecture de la parole de Dieu. La rencontre entre Jésus et la Samaritaine est la deuxième qui nous est relatée en détail dans l'évangile de Jean. La première concernait un homme, Nicodème, un juif, un chef des juifs. Le décor change. Nous ne sommes plus de nuit en Judée, mais en plein midi en Samarie. Les circonstances sont différentes. Nicodème, un homme, voulait cet entretien. La Samaritaine, une femme, d'une certaine manière, le suivit. Mais l'un et l'autre ont en commun de se cacher. Nicodème ne veut pas être vu avec le rabbi controversé, et la femme samaritaine ne veut pas subir les vexations et les sarcasmes de ses concitoyens. Jésus va cheminer avec eux deux au moyen d'une pédagogie distincte, mais avec un objectif commun, révéler son identité et son rôle dans le salut du monde. Prêtons attention à la pédagogie que Jésus utilise ici pour passer de l'eau du puits à la révélation du Messie. Et je voudrais attirer votre attention sur la pédagogie de la patience et du respect qu'utilise Jésus, puis celle de la métaphore et du malentendu, et enfin celle de l'évitement et de l'affrontement. Une pédagogie de la patience et du respect tout d'abord. Première chose à prendre en compte dans notre passage, c'est la capacité que manifeste Jésus à se rendre proche de son interlocutrice. Ce que je vais vous dire, dans un premier temps, va vous paraître évident, au moins en partie. Mais je crois nécessaire de m'y attarder dans une société où le temps est devenu tellement rare qu'il ne sort qu'à la parcimonie. La proximité de Jésus se manifeste d'abord par le temps qu'il accorde à la Samaritaine. Il est assis au bord d'un puits, il est fatigué du voyage, mais il trouve les ressources pour dialoguer avec cette femme au-delà du besoin immédiat d'étancher sa soif, alors qu'on est à l'heure de la forte chaleur. Que Jésus prenne du temps avec une inconnue peut vous paraître banal, mais ça ne l'est en rien. Réfléchissez un instant. Jésus n'est venu parmi les hommes qu'une trentaine d'années, et son ministère effectif n'a duré que 3 ans en vue d'offrir son salut à toute l'humanité. Dans ces conditions, Jésus, a-t-il raisonnablement le temps de discuter avec une femme seulement? Qui plus est, une femme qui n'est pas juive? La réponse est oui. Oui, parce que son ministère ne se mesure pas à l'homme de l'efficacité, mais à l'homme de l'amour manifesté. Or, s'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que l'amour résiste à toutes nos simplifications. L'amour n'est pas d'abord une affaire de quantité, mais plutôt de qualité. Il n'est pas affaire d'abord d'activité, mais d'écoute et de présence. Il n'est pas d'abord affaire de performance, mais de gratuité. Et vous savez, le temps consacré à une personne n'est jamais seul en cause en matière de proximité. En effet, deuxième réalité, Jésus s'affranchit des convenances sociales en parlant à cette femme. D'abord parce qu'elle est une femme, et ensuite parce qu'elle est une samaritaine. Vous avez noté, ou vous savez quelle est la réaction des disciples, puisque nous ne l'avons pas vu. Quand ils voient Jésus parler avec cette femme, ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Est-ce l'inconvenance d'un dialogue entre un homme et une femme sans témoin?
Est-ce le machisme d'une société qui peinait à considérer qu'une femme puisse discuter d'égal à égal avec un homme ? Toujours est-il que Jésus dérange même ses disciples. Et à cela, il faut ajouter l'inimitié qui existe entre juifs et samaritains, pour des raisons à la fois raciales et religieuses. La parenthèse du verset 9 peut se traduire « Les juifs, en effet, ne buvaient pas à la même coupe que les samaritains. » Pourquoi c'est dit ainsi ? Parce que pour ne pas se rendre rituellement impur. Or, que fait Jésus ? Il lui demande à boire. Vous comprendrez donc quel risque le Sauveur est prêt à prendre pour le salut d'une seule de ses créatures. Notez bien qu'il est coutumier du fait et que les païens et les publicains avec lesquels il mange, jusqu'à la femme de mauvaise vie dont il accepte l'hommage inhabituel, elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, il ne s'est jamais laissé arrêter par le conformisme social. Être le bon berger, c'est prendre du temps pour la brebis qui se perd, au risque d'en avoir 99 qui vous reprochent de ne pas s'occuper d'elle. Et qui vous disent que vous manquez de savoir-vivre et que vous n'avez pas un bon sens des priorités. Enfin, troisième réalité, une pédagogie de la proximité, si elle se veut aimante, se double d'un véritable respect de son interlocuteur. Et c'est bien ce que Jésus manifeste à la Samaritaine, au moins à deux reprises dans ce dialogue. Bien que Jésus connaisse tout de sa vie, vous remarquerez qu'il ne s'autorise pas à dévoiler sa situation. Il lui demande pudiquement d'aller chercher son mari et lui tend une perche. Il me semble discerner là toute la délicatesse du Sauveur, avancer une main secourable au lieu d'un doigt accusateur, même entre quatre yeux. Au fond, il laisse à la conscience de la Samaritaine le soin de l'aveu ou non d'une vie conjugale désordonnée. Et parce qu'elle fait preuve d'intégrité, il va un pas plus loin dans la révélation de la connaissance qu'il a de son état civil. Voyez ce que Jésus dit ici. Ce n'est pas l'étalage de son omniscience, mais la révélation de son identité profonde. Et là encore, il fait preuve de respect en n'imposant pas d'entrée cet argument d'autorité. « Je suis le Messie, moi qui te parle ». Vous savez qu'en fait, dans les évangiles, dans ce que les évangiles nous rapportent, Jésus ne dévoile sa messianité qu'à contre-cœur, qu'avec réticence, pour ne pas entretenir leurs illusions, puisqu'ils attendent plutôt un libérateur militaire. Il n'a pas cette réserve avec les Samaritains qui attendent le Taïb, ou encore celui qui revient, comme le dernier des prophètes qui révélera la vérité. Quand il sera venu, dit la Samaritaine, elle fait écho à cette croyance, il nous expliquera tout. Pourtant, Jésus attend. Il attend le moment favorable pour révéler son identité, le moment où, touché par la profondeur et la vérité de ses affirmations, cette femme évoque elle-même le Messie. Alors, mes amis, peut-être devrions-nous, à l'instar de Jésus, faire preuve de ce mélange de patience et de respect pour approcher nos contemporains sans abattre trop vite nos cartes et sans forcer la porte de leur cœur s'ils ne sont pas prêts. Et en même temps, il nous faut peut-être aussi oser braver les convenances sociales pour développer des relations improbables avec des gens infréquentables. Une pédagogie de la patience et du respect. Une pédagogie maintenant de la métaphore et du malentendu. Deuxième élément de la pédagogie de Jésus, c'est le passage très rapide du « donne-moi à boire » au « si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et t'aurais donné l'eau vive ». Je vais prendre de l'eau dans la comme ça.
Le maître procède ainsi à deux déplacements simultanés qui ne peuvent qu'éveiller la curiosité de la Samaritaine. Premier déplacement, il renverse l'ordre des choses dans le dialogue qui vient tout juste de commencer, puisque de demandeur qui exprime son besoin, il se pose en donateur potentiel en faisant surgir Dieu dans l'équation. Vous remarquerez qu'il le fait sur le ton de la suggestion. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, pas de l'affirmation. Il cherche à susciter la curiosité et à laisser place au dialogue. Ce faisant, l'intérêt de la femme est déplacé de l'identité immédiate de Jésus qu'elle a perçue. Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui est une samaritaine, à l'identité messianique qui pour l'instant échappe totalement à la samaritaine. Deuxième déplacement, Jésus change de registre. Il passe du premier au second degré en utilisant une métaphore, c'est-à-dire une image. Il passe de l'eau du puits, à l'eau vive. Et ce procédé lui permet, sans changer formellement de sujet, de passer de la réalité immédiate et matérielle, l'eau du puits, à la réalité spirituelle, la vie éternelle. Mais en faisant cela, il crée un quiproquo, une forme de malentendu dont l'évangile de Jean nous apprend qu'il est coutumier. Ma collègue Anne Ruol, qui enseigne l'évangile de Jean à l'Institut biblique de Nogent, recense un quiproquo de ce type par chapitre, au moins dans les 14 premiers chapitres. Le plus célèbre, c'est certainement le fameux « Démolissez ce temple et en 3 jours je le relèverai », qui conduit l'évangéliste a précisé, en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre temple. Il a dû se dire que s'il ne disait pas ça, nous on comprendrait rien du tout. Je crois donc légitime de parler d'une véritable pédagogie dite malentendue, par laquelle Jésus crée un décalage entre l'intérêt immédiat de ses interlocuteurs, le temple de Pierre, et la réalité ultime, son sacrifice que le temple annonce en ce qui concerne le dernier quiproquo que j'ai mentionné, et puis le don de la vie éternelle que l'eau du puits symbolise en ce qui concerne la femme samaritaine. Notez bien que cette pédagogie n'a pas pour fonction de combler rapidement le fossé créé, mais de préparer les interlocuteurs le moment venu à comprendre une vérité qui, pour l'instant, leur échappe. Et dans le cas du temple que j'ai cité, ça va durer longtemps, plusieurs mois, puisque Jean précise plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Dans le cas de la Samaritaine, le malentendu ne va pas durer aussi longtemps, mais le dialogue montre qu'elle n'a pas immédiatement compris ce que Jésus voulait dire. Alors qu'il a insisté sur la dimension métaphorique de sa référence, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle n'a pas vraiment compris parce qu'en effet elle lui répond « Donne-moi de cette eau-là » Jusque là, on peut se dire, tiens, elle a compris, sauf qu'elle poursuit pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Vas-y, non, elle n'a rien compris. Ou bien confusément, les choses sont en train de prendre forme. Et, chose tout à fait étonnante, au lieu de Jésus lui dire, non, tu te trompes, il lui dit, va chercher ton mari. Et on se dit, mais quel rapport ? Y a-t-il dans cette pédagogie de la métaphore et du malentendu une leçon à tirer pour notre propre façon de dialoguer avec celles et ceux que Dieu met sur notre route? Oui, je le crois. Cela vient heurter de plein fouet cette idée reçue selon laquelle
Il n'y a pas d'annonce possible et efficace de l'Évangile sans une totale adéquation de notre langage avec celui de notre interlocuteur. Certes, mes amis, il est utile et louable de nous défaire de notre patois de Canaan qui obscurcit souvent inutilement notre proclamation. Mais je crains que nous fassions souvent au prix d'un affadissement de la vérité et que nous abandonnions quelque chose de l'art du dialogue. Dialoguer, vous savez, ce n'est pas seulement affirmer ce que nous croyons, c'est aussi questionner, c'est bousculer, et c'est parfois laisser en suspens les questions alors que notre interlocuteur repart. Et je termine par, après la métaphore et le malentendu, l'évitement et l'affrontement. On s'aperçoit dans sa pédagogie du déplacement, Jésus manie deux éléments contradictoires, l'évitement et l'affrontement. Il semble tour à tour ignorer certaines questions de la Samaritaine et parfois aller au-delà des questions qu'elle a posées. Par exemple, il ne répond pas à cette question « Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob ». Par contre, il n'hésite pas à répondre à la question suivante. « Dis-moi, qui a raison ?» À propos de « Est-ce que c'est sur le mont Garizim ou c'est à Jérusalem qu'il faut adorer ?» Et d'ailleurs, il y répond avec un certain sens, sinon de la provocation, du moins de la confrontation. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Vous imaginez ? Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Comment comprendre cette attitude étonnante de la part de Jésus ? Il me semble qu'il y a d'abord chez lui une grande finesse psychologique. Au moment où la Samaritaine exprime clairement son besoin de repos, hein, « Je ne veux plus revenir ici, donne-moi de cette eau », et de façon confuse de salut, Jésus semble sauter du coq à l'âne en lui demandant d'aller chercher son mari et de revenir précisément sur le lieu qui symbolise toute sa fatigue physique. Puiser de l'eau pour une femme est une corvée particulièrement difficile. Et c'est aussi le lieu de sa fatigue morale. Parce que si elle le fait en plein midi, ça vous échappe peut-être. C'est parce qu'il n'y a personne qui est assez fou pour aller sortir de l'eau à midi, en plein Cana. Mais comme elle est moralement pas très clean, eh bien, au moins elle ne rencontre personne à cette heure-là. Ici, Jésus use d'une pédagogie de la confrontation douce. Osera-t-elle reconnaître son péché ? Va chercher ton mari. Si oui, elle aura fait un pas dans la reconnaissance du Sauveur et dans la direction du salut. Et c'est bien ce qui se produit. Elle commence à reconnaître et son péché et quelque chose de l'identité du Sauveur, puisqu'elle répond « Maître, je le vois, tu es un prophète. » Elle a progressé. Il me semble qu'il y a ensuite, chez Jésus, une maîtrise subtile du dialogue. Je ne sais pas si vous avez remarqué que sur les plateaux de télévision ou de radio, pour arriver à dialoguer, il y a deux pratiques. L'une qui consiste à parler plus fort que son interlocuteur, et l'autre à surtout ignorer les questions qu'il nous pose. Jésus n'a pas besoin de cela. Il ne perd pas de vue le cap qu'il s'est fixé, révéler sa messianité à cette femme et en faire son témoin à Samarie. Répondre qu'il est plus grand que Jacob n'est pas décisif dans cette perspective. Et d'ailleurs, cela reste très périphérique dans l'échange, parce qu'elle n'y reviendra pas, la femme samaritaine. C'est l'eau vive qui reste centrale. Par contre, répondre à la question du lieu légitime de l'adoration est capital. Toute l'habileté de Jésus dans sa réponse consiste à dire la vérité crue, le salut vient des Juifs, mais sans fermer la porte à cette femme qui n'est pas juive, lui qui est venu ouvrir par son sacrifice la porte du salut à toutes les nations. Alors vous observerez que pour y parvenir, il commence par entrouvrir la porte avant de dire que le salut ne vient pas des Juifs, que le salut vient des Juifs. L'heure vient, commence-t-il, où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous voyez, il manie l'évitement et l'affrontement selon les moments du dialogue. Et je crois que ça nous en dit beaucoup sur la personne du Sauveur. Il y parvient avec une parfaite lucidité. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encombré comme nous par un moi pécheur. Qui veut, selon les personnes, avoir le dernier mot ? Vous savez, certains d'entre nous, et j'en fais partie, quand on nous pose une question, on veut absolument répondre. Et surtout, on veut avoir raison. Et puis, il y en a d'autres, ça m'arrive aussi à d'autres moments, où on veut tellement être approuvé que on préfère se taire et éviter le conflit. Jésus manifeste en homme qui n'a pas de péché une parfaite liberté pour parler ou se taire à l'égard de son interlocuteur. Et ici, me semble-t-il, son exemple est moins source d'inspiration que d'édification. Je suis tenté de vous dire, il n'y a pas de méthode. Ce dont vous avez besoin, vous, ce dont j'ai besoin, moi, ce dont nous avons besoin pour dialoguer, c'est d'une plus grande maturité. D'une plus belle maturité. Alors, il me reste des questions à vous poser. Pour que vous alliez un peu plus loin dans ce texte. Et toi maintenant, comment manifestes-tu concrètement du respect à ton contradicteur? Et quelles limites poses-tu dans ce dialogue, aussi bien en ce qui te concerne qu'en ce qui le concerne? Le respect ne voulant pas dire faire le paillasson. Deuxième question, dans le dialogue, quel malentendu faut-il lever? Et quel malentendu peut être entretenu à dessein parce qu'il va faire progresser la personne? Pour le dire autrement, que faut-il garder ou que faut-il laisser du patriarcat? Enfin, comment juges-tu ta liberté et ta lucidité dans le dialogue? Et la vraie question ici, c'est et comment progresser du point où tu es pour être plus efficace, plus ouvert dans les mal du Seigneur? Je vous remercie.